Dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 58, nous lisons les versets 7 à 10. Partage ton pain avec celui qui a faim, et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le, et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras, et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira « Me voici ». Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. Dans l'évangile, notre évangile du jour, c'est la suite directe des béatitudes de la semaine dernière, dans Matthieu au chapitre 5, les versets 13 à 16. Jésus enseigne à ses disciples et leur dit « Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Éternel, ta parole est dans nos cœurs. Et dans nos cœurs, elle se fait lumière. Amen. Voilà, depuis le début de l'année, depuis le début janvier, j'ai réalisé qu'il était beaucoup question de lumière, et vous l'aurez sans doute réalisé aussi. Ça tombe très bien en même temps, parce que déjà, avec cette saison, on en manque toujours un peu, même si aujourd'hui ça se passe plutôt bien pour nous. Mais voilà, on est dans ce temps entre novembre et mars où on manque toujours cruellement un peu de lumière. Et c'est surtout parce que c'est une image qui parle très bien, et pour beaucoup, de la présence de Dieu en nous, et de ce que nous sommes censés être et faire durant notre marche de vie sur cette terre. Alors voyons ce que nous pourrions encore retenir ce matin de ces textes du jour qui nous parlent encore de lumière. Déjà ce matin, par les paroles de Jésus, il nous est rappelé que nous sommes lumière, lumière du monde, et que donc nous n'avons pas à le devenir, mais simplement à laisser cette lumière de Dieu briller à travers nous. Nous apprenons aussi que notre lumière, cette lumière de Dieu en nous, doit bien sûr éclairer notre route, mais qu'elle est faite aussi, et peut-être surtout, elle est censée éclairer les autres, qu'elle est faite pour les autres, qu'elle existe en nous pour être au service des autres. Afin que cette lumière de Dieu en nous soit vue des hommes, et qu'ils en glorifient Dieu parce que cette lumière les a rejoints là où ils sont. Et puis, par les paroles de Jésus dans notre évangile du jour, nous apprenons encore que notre grande tentation, à nous tous, humains, c'est de cacher cette lumière qui est en nous. Hein, plutôt que de la révéler, plutôt que de la laisser rayonner autour de nous, notre truc, c'est plutôt de la garder cachée. Alors ne me demandez pas pourquoi. Je ne sais pas, c'est probablement une histoire de peur, peur de l'exposer, peur de la partager, peur de la perdre, que sais-je. D'ailleurs, vous savez que au début de la Bible, la première conséquence du péché, une fois qu'Adam et Ève ont consommé le fruit défendu, c'est la peur. Et la première chose qu'ils font, c'est d'aller se cacher. Alors peut-être que depuis le début de l'humanité, c'est notre sort à tous, c'est d'aller se cacher devant Dieu. Mais Jésus nous le dit, vous êtes la lumière du monde, et on n'allume pas une lampe pour la cacher sous le boisseau. Alors le boisseau, c'est un récipient de forme cylindrique, un peu comme un seau, on pourrait dire, qui était destiné à mesurer les matières sèches, les grains, l'orge, le blé, la farine, que sais-je, tout ça. Et ce qui fait une mesure d'unité, cet objet, c'était une mesure d'unité. Jésus aurait très bien pu utiliser le seau pour parler de la même chose. Hein, on n'allume pas une lumière pour la mettre sous un seau. Mais si Jésus, dans ce passage, utilise le boisseau, c'est peut-être aussi pour nous dire que, justement, la lumière n'a pas à être filtrée, n'a pas à être mesurée, calculée, économisée, calibrée, mais qu'elle doit, au contraire, luire largement devant tous les hommes, se répandre généreusement. Bon, tout ça, c'est très bien, luire pour éclairer les autres, bien sûr, et c'est très chrétien, en plus, dans la démarche, hein, surtout quand les autres y discernent la présence de Dieu. Pour autant, ce n'est pas toujours un exercice aisé. Surtout quand soi-même, on se sent éteint à l'intérieur, et marchant dans l'obscurité, quand nos corps, nos membres nous font mal ou sont malades, quand il nous semble que nos pensées sont bien trop sombres et pesantes pour éclairer qui que ce soit, ou quoi que ce soit, quand nous n'avons qu'une envie, c'est de disparaître en nous-mêmes et nous dissoudre dans nos pensées obscures. On connaît tous des moments pareils, même Jésus a eu ces moments-là. Avant lui, les prophètes ont eu ces moments-là, après lui, bien des disciples ont traversé ces moments-là aussi. Aucune raison que ça nous échappe. Mais alors, quelle est la solution pour retrouver toute cette lumière qui est nôtre et qui semble pourtant éteinte ou toute faiblarde, ou cachée peut-être? Alors, beaucoup de traditions modernes ou anciennes proposent des solutions. On pourrait presque dire que chaque époque même a des suggestions pour retrouver cette lumière en nous et nous permettre de guérir de ce qui nous afflige. Déjà quelques 700 ans avant le Christ, dans le sein du judaïsme de son époque, le prophète Ésaïe proposait, à qui voulait bien l'entendre, une voie de salut pour retrouver cette lumière. Dans son contexte, la proposition qu'il fait s'adresse justement à ceux qui, dans une vie de tous les jours très hypocrite, essayent de temps en temps d'attendrir Dieu par la voie des rituels, et notamment là, par la voie du jeûne. Et Ésaïe déclare dans ce chapitre 58, en parlant de ces jeûnes rituels que beaucoup d'hypocrites observaient, « Ce n'est pas un jour où tu devrais courber la tête comme un jonc et te coucher sur le sac et la cendre. Est-ce là ce que tu appelles un jeûne, un jour agréable à l'Éternel ?» Mais voilà comment Ésaïe décrit plutôt le jeûne auquel Dieu prendrait éventuellement plaisir. « Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le. Ne te détourne pas de ton semblable. » Si on prend le temps de laisser ces paroles descendre, entrer en nous et nous rejoindre en profondeur, on captera alors peut-être que le conseil principal à entendre, c'est de passer de l'action générale, « je donne à mon église », je donne à telle charity qui s'occupe des pauvres, qui s'occupe des sans-asile ou des homeless, à une action personnelle. Partage ton pain avec celui qui a faim. Ne te contente pas de lui donner quelques piécettes pour s'acheter un pain, partage le tien. Fais entrer dans ta maison. C'est-à-dire, ne te débarrasse pas trop vite de celui qui a froid en lui donnant l'adresse d'un lieu de refuge éventuel. Si tu vois un homme nu, vois l'urgence et couvre-le. Le mot-clé du passage, ce qu'Ésaïe essaye de faire entendre à ceux de son époque, c'est « ne te détourne pas de ton semblable. Ne ferme pas les yeux. ni ceux de ton cœur, occupe-toi vraiment, mais vraiment, de ton prochain. Sans l'ignorer, relève-le, nourris-le, couvre-le, parce que c'est ton semblable, parce que c'est toi. Cette semaine, je vais vous lire d'ailleurs la version d'André Chouraki, je l'ai notée là parce que voilà, je voulais vous la confier, je la trouve très belle. Et lui, il dit « Quand tu vois un nu, couvre-le, sans te dérober devant ta chair. » Et ça m'a marqué, ça m'a touché, ça, vraiment, en méditant là-dessus et en relisant tous ces textes, j'ai bien compris et réalisé la distance qui était en moi. J'étais encore loin de passer de cette compassion momentanée et somme toute très superficielle en donnant une piécette justement à celui qui a faim à une véritable prise en charge de mon semblable, de sa détresse. J'en suis pas encore là. Je m'en suis même senti assez honteux et humilié. Et de ce constat, je sais que j'ai bien des progrès à faire encore pour que cette lumière intérieure luise un peu plus, luise un peu plus longtemps, luise un peu plus authentiquement peut-être. Et il est d'ailleurs possible que certains d'entre vous se sentent avec moi aussi repris par ces paroles qu'on aurait vite envie de cataloguer de radical ou je sais pas, d'extrême, ne nous concernant pas trop, c'est pour d'autres. Et elles sont pourtant, ces paroles, si simples et tellement naturelles, tellement humaines. Tu vois quelqu'un qui a faim, nourris-le de ton pain. Et mes amis, celui qui a faim et celui qui a soif, celui qui est nu, celui qui est seul, qui est sans toi, ce n'est pas seulement le homeless que nous croisons de temps en temps, mais ça peut être aussi toute personne autour de nous, tous ces gens que nous sommes censés, que nous sommes appelés à côtoyer chaque jour. Parce que c'est ce qui fait nos vies. Ça peut être chez nous, ça peut être au travail, ça peut être dans la distance entre les deux, ça peut être dans nos moments de détente, dans nos vies. Tellement, autour de nous, on faim et soif de sens, d'espérance, de justice, d'inspiration, de rêve, bref, de lumière. Oui, justement, la lumière, il semblerait que ce qu'avait déjà découvert Ésaïe au 8e siècle avant Jésus-Christ, c'est que pour retrouver la lumière qui s'est éteinte, fragilisée en nous, une solution est radicale, c'est de nous décentrer de nous-mêmes et de nous mettre à l'écoute et au service de l'autre. Et il faut le prendre très tranquillement, peut-être commencer avec cette personne de mon quotidien que je côtoie chaque jour. Quelle est la parole de bénédiction qui pourrait être pour elle dans cet instant? Quel est le geste à poser, le sourire à donner au bon moment pour augmenter un tant soit peu l'intensité de sa propre lumière intérieure? Pour le dire autrement, il semblerait que la solution à nos propres problèmes de lumière intérieure se trouve en l'autre. Voilà donc le jeûne qui plairait à Dieu. Ainsi, le jeûne véritable exige des actes positifs qui vont d'ailleurs tous et toujours dans la même direction, libérer les asservis et les prisonniers, mais aussi partager son pain avec celui qui a faim, savoir accueillir les errants, les autres, les différents, celles et ceux qui ne me ressemblent pas, vêtir ceux qui sont nus, alors physiquement nus, mais aussi psychologiquement nus, spirituellement nus. Nu, c'est être fragile, c'est être vulnérable à un moment de sa vie et on peut tous se retrouver comme ça, à un moment donné, nu devant les autres. Alors on peut être nu d'idées, nu de sens, nu de rêves, nu de force ou nu d'espérance, mais si tu apprends à couvrir cette nudité et cette fragilité chez l'autre en le recouvrant, alors, nous dit le verset 8, alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Et c'est intéressant ici de voir que le prophète ne dit pas que la lumière de Dieu va fondre sur toi. Il dit ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Dans ce mot de guérison, d'ailleurs, on peut entendre avec Chouraki une idée de cicatrisation. Ou même voir dans cette lumière intérieure comme une source de salut et de guérison pour nous et pour les autres. Et quand j'entends que ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera, eh bien je me dis vraiment de vivre dans le présent et de ne pas tant m'inquiéter outre mesure de l'avenir, puisque Dieu est une réalité qui accompagne chacun de mes pas. Comment retrouver notre lumière intérieure, nous demandions-nous? Eh bien, le verset 10 nous délivre encore un cadeau. Si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. Et là encore, on a bien deux aspects de l'être humain. Il s'agit de partager sa propre subsistance pour soulager physiquement celui qui a faim, mais aussi partager ce que l'on est avec l'âme indigente, cette âme en quête de sens, en quête de justice ou d'espérance. D'ailleurs, je vous lis là aussi ce verset dans la version de Chouraki. Vous allez voir que le français qu'il utilise parle vraiment. Il dit « Si tu prélèves de ton être pour l'affamer, pour rassasier l'être violenté, ta lumière brillera dans les ténèbres, ton obscurité comme le plein midi. » J'adore ces « si tu prélèves de ton être hein, ». On a quelque chose à donner de nous-mêmes. Parce que j'avais prêché récemment sur les paroles de Jésus, ces paroles sur le sel de la terre et la lumière du monde, ces paroles de ce matin, j'ai choisi délibérément de m'arrêter et de méditer avec vous sur le texte d'Ésaïe. Mais quand on lit les mots d'Ésaïe dans ce chapitre, en fait, j'ai réalisé à quel point l'esprit qui inspire ces paroles et me semble tout à fait le même que celui qui inspire celle de Jésus. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que leurs deux noms sont les mêmes. On pourrait dire que Yeshua, Jésus, s'est inspiré de Yeshayahu, qui est Ésaïe, deux noms théophores qui veulent dire « Dieu sauve », l'un a probablement inspiré l'autre. Voilà donc le chemin que nous indique le prophète ce matin pour que notre lumière intérieure, notre lumière de guérison s'allume, éclaire et brille. Il nous invite par de tout petits moments, tout humbles, comme une bougie qui en allume une autre, pas plus, à transmettre ce que nous sommes, à partager un peu de ce que nous avons, un peu de notre lumière avec celui qui en a besoin. C'est alors qu'elle se met en nous, et peut-être malgré nous, à luire avec une intensité nouvelle et salvatrice. C'est que nous retrouvons alors le contact avec l'autre, et en retrouvant cette relation toute humaine, le prophète nous annonce que c'est nous-mêmes, que c'est notre propre lumière que nous trouvons dans le processus. Alors, chaque jour, un peu davantage, laissons briller cette lumière que Dieu a placée en nous, pour ceux que nous aimons autour de nous et pour le monde, pour que s'élargisse le royaume de Dieu. Amen.